Alors, Michel Ciboni, je suis tout contente de te retrouver.
Moi aussi.
Je vais essayer de te présenter en quelques mots. Tu es né au Maroc.
Oui.
Tu as fait des études en Israël.
En France et en Israël, oui.
Et tu vis maintenant en France, mais tu vas assez fréquemment en Israël.
Oui. J'essaie d'y aller tous les ans.
C'est-à-dire que tu es entre ces trois cultures, quoi, en somme.
Oui. Je suis très française.
Oui.
Mes racines sont marocaines, ça c'est très clair. Je me considère comme une juive arabe. Et j'ai des liens forts avec Israël parce que j'y ai étudié, que c'est même mes études là-bas et ma présence là-bas pendant 4 ans qui m'ont fait comprendre ce qui se passait, réellement. Et qui m'ont fait défaire l'éducation avec laquelle j'avais été construite.
Et c'est la raison pour laquelle tu es là, c'est que tu es porte-parole de l'UJFP. Alors il faut que tu nous rappelles, en bref, ce qu'est l'UJFP.
L'UJFP, c'est Union Juive Française pour la Paix. C'est né autour de la conférence de Madrid, après la première intifada.
92.
Et c'était une organisation juive, c'était même la branche française d'une organisation juive plus internationale que ça. Mais les autres ont changé, ça s'est un peu éparpillé, et nous on est restés, on a gardé ce nom. Et l'idée c'était de défendre les conditions d'une paix juste, et donc durable, entre Palestiniens et Israéliens.
Alors vous êtes quand même depuis des années, d'abord vous êtes une référence, repère politique on va dire, et vous faites tout un boulot aussi... intellectuel, culturel, d'engagement, mais vous êtes quand même un peu le poil à gratter par rapport à d'autres représentations juives dans notre beau pays.
Oui, on a dû lutter beaucoup et on continue à lutter contre le CRIF, par exemple.
Par exemple, au hasard.
Conseil représentatif des institutions juives de France, qui représente une petite centaine d'organisations juives communautaires, mais qui a surtout comme particularité d'adhérer complètement à la politique israélienne et de la défendre bec et ongle, quelle qu'elle soit. Dans ce pays.
Ouais.
Alors, c'est sûr qu'on a fort à faire, parce qu'on a aussi des médias français qui soutiennent les thèses sionistes et qui les mettent en avant, qui les portent. On a des intellectuels français, juifs ou pas d'ailleurs, qui soutiennent ces thèses, etc. Et nous, on a de cesse de tenter de démonter la politique israélienne et de montrer comment elle est meurtrière et sans avenir pour les deux peuples concernés, qui sont le peuple israélien juif, le collectif israélien juif qui vit dans ce territoire-là, et le collectif palestinien.
Mais c'est quand même une position qui n'est pas facile, parce que vous êtes souvent le cul entre deux chaises, si je peux dire, et vous vous trouvez dans certains milieux radicaux, vous êtes les juifs, quoi, et puis du côté du CRIF, vous êtes un peu des traîtres à...
Oui. en même temps, on est assez à l'aise, parce qu'on a une boussole, comme on dit, on a des valeurs qui sont simples, qui sont pas difficiles à partager. Par exemple, on vit dans un pays qui est censé être une république, et une république de tous ses citoyens, même si c'est pas tous les jours vérifiable, et on pense que quand on est un citoyen français qui défend l'idée d'une république de tous ses citoyens, on voit pas pourquoi ailleurs ce serait pas vrai.
Alors, ce qui se passe actuellement avec depuis le 7 octobre, cette explosion absolument monstrueuse, a montré que depuis des années, le sujet israélo-palestinien, le sort de la Palestine, le problème palestinien, bon, on n'en parlait plus beaucoup, ça passait un petit peu sous les radars, et puis ça glissait doucement vers la cause palestinienne, était en train de glisser doucement vers les causes perdues, c'était le truc dont on parlait plus beaucoup ici, alors que c'est quand même une passion française depuis longtemps. Ce que dit Alain Grech, ça a été très très longtemps une passion française, et on a en France nombre d'érudits, de militants, d'études qui ont été faites pendant des années passionnément et parfois judicieusement sur ce sujet. Et voilà que tout ça a été un peu étiolé. Tout d'un coup, ce drame surgit, et on voit des tas de gens qui sont un petit peu perdus. Quoi.
Ils sont surpris, déjà.
Ils sont surpris, et qui pensent que tout a commencé le 7 octobre. Quoi.
Oui, voilà. C'est ça.
Et ben, il faudrait que tu nous expliques un peu les causes de tout ça, sans, on rappelle hein, la formule évidemment que chercher à expliquer, c'est pas excuser, mais on a quand même besoin, un besoin urgent d'explication et d'essayer de replacer ces histoires dans l'histoire.
Écoute, ça faisait des années effectivement que les guerres successives au Moyen-Orient, la Syrie, l'Irak, la Syrie, etc., noyaient la question palestinienne, la secondarisaient. Il y avait, avec Trump, on a eu la tentative de sortir de, ou d'achever la cause palestinienne par des accords économiques. On va donner de l'argent, on va normaliser avec Israël, tout ça va se calmer. Et il y avait un silence des médias qu'on pouvait trouver effarant sur ce qui se passait sur le terrain. C'est ce terrain-là qui a explosé le 7 octobre. On peut mettre là-dessus le nom de Hamas ou le nom de qui on veut. C'est ce terrain-là qui a explosé. Et qui a explosé à la figure du monde entier, finalement. Parce que c'est comme si... Enfin, nous, on a créé une petite agence qui s'appelle Média Palestine, en France, parce qu'on était sidérés du silence des médias. Il y avait des grèves de prisonniers, de milliers de prisonniers palestiniens en Israël, silence total dans les médias. Il y avait des morts palestiniens quotidiennes en Cisjordanie, 250 depuis janvier 2023, mais attendez, je dis 250, plus les 70 des 10 derniers jours, ou les 80 des 10 derniers jours, c'est-à-dire grosso modo un mort par jour, pas un mot. Des annexions en série, des discours d'une violence extraordinaire, un gouvernement qui est devenu d'extrême droite, c'est-à-dire l'aboutissement de toute cette histoire, c'est le gouvernement d'extrême droite de ces dernières années.
Oui, oui.
Ça fait un an que les colons ont carte blanche, mais alors quand je dis carte blanche, c'est pas moi qui le dis, c'est la presse israélienne, il y a eu des pogroms à Huwara notamment.
Oui, au sud de la Cisjordanie.
À Burqa.
Oui.
Carte blanche sous les bras croisés de l'armée, voire avec le soutien actif de l'armée, sans aucun problème. Tout ça, silence radio, le français radio, moyen n'en entend pas parler.
Silence radio, bien que tout ça soit documenté, si on veut se documenter.
Oui.
Parce qu'il y a une presse israélienne, Israël a tous les défauts du monde, mais il y a quand même une presse qui est assez libre et qui l'ouvre.
Tu me permettras de moduler ça, je vais te dire.
Je pense évidemment au Haaretz, par exemple.
C'est vrai. Cela dit, moi j'étais en Israël en juin dernier, et j'apprends par les réseaux sociaux que je fréquente, qui sont des réseaux sociaux militants souvent, qu'il vient de se produire à Burqa, village palestinien, un pogrom. Je suis en Israël, je consulte la presse israélienne, je ne vois rien, j'appelle des amis israéliens. Vous êtes au courant de ce qui vient de se produire à Burqa? Eux, ils l'ont su 5 jours après. Moi, je l'ai su 2 jours après. Non, la presse israélienne, elle a changé.
Je ne suis pas à jour pour la presse israélienne.
C'est de plus en plus compliqué. On a une presse... D'ailleurs, c'est la presse française commence à ressembler à la presse israélienne, c'est vous dire. C'est-à-dire les interviews en Israël, c'est des interrogatoires de police, surtout si vous êtes de gauche et surtout si vous soutenez les Palestiniens. C'est assez dégueulasse. La télévision est une catastrophe. Alors, on imagine... Bon, voilà, comme en France, quoi. Le français moyen qui écoute les informations sur BFM Télé ou de grands réseaux médiatiques comme ça, il ne sait rien de ce qui se passe, et depuis longtemps. Et puis, j'ai pas dit le plus gros quand même, Gaza est assiégée et sous blocus depuis 16 ans passés.
C'est ça.
Et vit dans des conditions inimaginables de pauvreté, de dégradation quotidienne. Et Gaza survit, la population de Gaza, c'est 2 200 000 habitants, ils sont dans la survie depuis des années et des années. Il n'y a plus d'eau potable à Gaza, il faut comprendre. Les nappes phréatiques ont été envahies par la mer, parce qu'elles ont été vidées, pompées de leur eau envoyée en Israël. Enfin bref, une situation catastrophique sur laquelle l'ONU et toutes les grandes ONG internationales d'aide alertent depuis des années et des années et des années, dans le silence et le je m'en foutisme total de l'Occident. Les gens qui imaginaient que ça allait continuer longtemps comme ça, c'est ça qui me surprend. C'est qu'on ait imaginé que ce statu quo... Parce que quand on parle de la Palestine, on peut en parler en termes théoriques, en termes géostratégiques lointains. On oublie juste que la Palestine n'est pas une terre sans peuple. Il y a un vrai peuple, il y a une vraie population qui vit dans ce pays-là, sur ce territoire, qui résiste tous les jours. Je me rappelle de Michel Warchavski, notre copain commun, qui disait « J'envie les Palestiniens parce qu'une femme qui envoie sa gosse à l'école, qui l'habille et qui l'envoie à l'école tous les matins, elle résiste. C'est un acte de résistance. » Il disait « Moi, si je milite pas activement, je ne suis pas dans la résistance, mais dans la collaboration. » Donc voilà, cette population existe. Elle n'est pas encore morte. Elle n'a pas disparu. C'est pas une terre sans peuple. Oui, c'est une terre habitée aussi par les Palestiniens.
C'est comme tous les peuples colonisés. Les peuples colonisés, à un moment ou à un autre, enfin, quel que soit le prix à payer, quand ils ont une légitimité sur leur terre, sur leur histoire, sur leur maison, et à un moment ou à un autre, par tous les moyens, y compris les pires, y compris les plus atroces, ils finissent avec l'histoire de l'Algérie. On l'a quand même, celle-là, on l'a présente à l'esprit. Hein. Bah oui. Et c'est ce qui est en train de se passer. On citait tout à l'heure, on évoquait Henri Laurence, hein, ce grand historien qui est un très grand spécialiste de tout le Moyen-Orient et de ce conflit, entre guillemets, et qui a réussi, il s'en vantait, à résumer tout ça en deux phrases. En une phrase. En disant, les uns ont la force, les autres ont la loi. C'est-à-dire que Israël a la force, et les Palestiniens ont la loi.
La légitimité.
Alors, c'est ça, ça prête à discussion. Alors déjà, la force, elle est bréchée, là. C'est bien ce qui vient de se passer. Mais alors on dit, mais attendez, mais non. Israël a aussi la loi, elle a ses légitimités d'être là, de s'installer là. Il y a des quantités de raisons qui ont créé, légitimé l'État d'Israël. Toutes ces raisons, Edith Zertal en a génialement parlé. Oui. Ce sont des idées qui peuvent être tout à fait défendues, mais enfin, ce sont des idées. Tandis qu'il y a une certitude pour les Palestiniens, c'est la terre, quoi. Ça, c'est à nous, cette terre-là, elle est à nous. Cette maison, c'est ma maison. Et cette raison-là, elle est celle de toutes les luttes de décolonisation qu'on voit, pas seulement, quand on est français, on pense tout de suite à l'Algérie, mais on peut penser à l'Amérique latine, on peut penser à tous les peuples des Amériques qui sont en lutte, toujours aujourd'hui, de plus en plus, pour ces droits fondamentaux.
Le drame, et ça vaut aussi pour l'Algérie à un moment, mais ça a valu évidemment pour les États-Unis et pour l'Australie et pour la Palestine, c'est qu'on est dans une forme de colonialisme qui est extrêmement brutale et génocidaire, hein, qui est le colonialisme de peuplement. Alors, génocidaire, ça se voit pas tous les jours, et ça se voit pas tout le temps, mais là, dans cette dernière période immédiate dont on parle, il y a un vrai risque. Et je pense qu'il faudra qu'on en parle quand même, parce que l'expression en hébreu, c'est « aplatir Gaza ». Aplatir Gaza, expulser les Palestiniens vers le Sinaï, si j'ai bien compris, c'est le plan A, se débarrasser du Hamas, et puis ramener les Palestiniens sous la direction de l'autorité palestinienne. Un plan qui laisse un peu rêveur, quand même, quant à sa réalisation. On parle de 2 millions d'habitants. Et le deuxième plan, c'est, si ça marche pas, c'est quoi ? On les tue tous pour attraper les militants du Hamas, comme si les militants du Hamas, j'ai envie de le dire, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, c'est pas la question. Était déconnecté de la population, n'avait rien à voir avec la population. Ça me rappelle un truc d'un journaliste autrichien qui s'était baladé dans le sud Liban en 2006, après l'invasion repoussée par Israël, repoussée par le Hezbollah. Il rentre dans une épicerie à Bint Ishbel, qui était un des hauts lieux de la résistance libanaise du Hezbollah. Il rentre dans une épicerie, il y avait pas mal de clients et tout, et il commence à discuter avec les gens, et au bout d'un moment, il dit « Mais écoutez, est-ce que vous pouvez me faire rencontrer des militants du Hezbollah, parce que je suis là un peu pour les intérêts ?» Et il est accueilli par un éclat de rire général dans l'épicerie. Alors il comprend pas, et l'épicier lui dit « Bah vas-y, serre-toi !» Et il montre tout le monde. Parce que qu'est-ce que ça voulait dire ? Dans le sud Liban, même quand on était chrétien, si on voulait rejoindre la résistance à Israël, on rejoignait la force de résistance qui existait, qui était le Hezbollah. Alors les gens du Hamas, ce sont des Palestiniens qui résistent, avec des manières dont on peut discuter.
Oui, moi je suis complètement opposé.
On est, mais attends, personne ne va accepter les crimes de guerre contre des civils. C'est la base. Par contre, moi, j'accepte pas les injonctions qui me dicteraient de quelle manière je dois le dire. Ça, c'est hors de question. Mais on est tous d'accord sur cette base-là. Sauf que Alain Grech, dans Orient 21, le disait assez bien, les guerres coloniales propres, c'est très compliqué. Parce qu'on a... Ce sont des guerres asymétriques.
C'est ça.
On a des populations sans armes, qui vont utiliser des cailloux, et qui vont utiliser souvent une violence... dont il faut bien dire qu'elle est parfois tout à fait inacceptable, en face d'armées constituées, et Israël se présente comme une puissance énorme.
Oui.
Donc l'attaquer quasiment à main nue, ça produit des horreurs, effectivement.
Là, quand la victoire vient, les terroristes deviennent des résistants. Si on avait fait des trucs avec les discours de Pétain, et on avait trouvé des enregistrements des discours de Pétain. Il avait fait des tournées en France. Et dans tous ses discours, il dénonçait les terroristes. Les terroristes de Pétain, c'est nos héros. Tu vois, c'est nos héros.
C'est nos héros d'aujourd'hui.
C'est nos héros, c'est notre résistance d'aujourd'hui. Alors on assure que nos résistants n'ont jamais, se sont jamais attaqués aux populations civiles, etc. Bon, mais en tout cas... On a bien été obligé, ce que tu dis, sur des guerres asymétriques, là c'était vraiment ça en France, c'était une guerre asymétrique, d'avoir recours à des actions terroristes. Et c'est ce à quoi la politique israélienne a conduit ce pays. Mais ce n'était pas quelque chose qui était accepté par les Israéliens. On a rediffusé un entretien qu'on avait eu en 91 avec Yeshaou Leibovitch qui disait... Dès 67, il a dit « il faut rendre les territoires, le colonisateur se déshumanise et on va vers le pire ». Et ça, il n'était pas seul à dire ça.
Mais j'ai envie de parler de la responsabilité internationale vis-à-vis de ça.
Oui.
On n'en serait pas là si on avait utilisé et profité de l'ouverture de ce qu'on appelait des fenêtres d'opportunité pour faire la paix. Il y avait des moments où on pouvait discuter de paix et on pouvait parler. Et à ce moment-là, les Européens et les Occidentaux se sont tus et ont laissé faire. Et ça a donné la deuxième intifada, parce que les Palestiniens ne pouvaient pas accepter le sort qui leur était fait.
Une instance qui ne s'est jamais tue, c'est les Nations Unies. Mais les fameuses résolutions, dont la résolution, la fameuse 242, n'a jamais été appliquée.
Non.
Encore ces jours derniers, comment Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, il appelle un cessez-le-feu. Après avoir fait état de tout ça, il est important de reconnaître que les attaques du Hamas interviennent dans un certain contexte.
Ouh, et cette phrase-là... Quel gros mot, contexte.
Voilà, non, mais cette phrase-là... Et il évoque une économie étouffée, un peuple déplacé, des maisons démolies, les espoirs d'une solution politique qui s'est évanouie. Alors il explique, mais les doléances du peuple palestinien ne peuvent pas justifier les horribles attaques du Hamas, et ces attaques ne peuvent pas justifier la punition collective du peuple palestinien. Et il appelle à un cessez-le-feu immédiat. C'est sorti il y a deux jours. C'est les Nations Unies, je veux dire, c'est pas les...
Alors, Israélien a le plus grand mépris pour l'ONU. Il y a même une expression en hébreu qui dit « oum shmoum », c'est intraduisible, mais je dirais « ONU schmilblick ». Ce serait quelque chose de ce genre. Et ce qui est terrible, c'est que le droit international, il a été fondé dans l'après-deuxième guerre mondiale, et au fond, sur le sang des Juifs. Et Israël n'a de cesse que de l'attaquer et de le détruire. Il le détruit comment ? Il le détruit avec l'énorme complicité occidentale qui fait qu'il le viole quotidiennement et l'Occident lui donne carte blanche. Ne le condamne pas, ne le sanctionne pas, ne fait pas respecter le droit international. Ce qui est une manière de le vider de toute substance. Donc, Israël qui est aussi le fruit du droit international. Aussi l'ONU qui a fait le partage de 47 entre la Palestine, la partition de la Palestine.
Israël est né en même temps que l'ONU, oui.
Il est le fruit du droit international et il n'a de cesse que de le vider de tout son sens parce qu'il est dans un espèce de délire de toute puissance effrayant et que le vrai projet, je regrette d'avoir à le dire, et c'est une tragédie, Ilan Pappé, l'historien israélien, l'a écrit abondamment. Le vrai projet, ça a toujours été, même chez Ben Gurion, qui le disait à son fils, c'est dans une des lettres, c'est cité dans notre livre d'ailleurs, c'est la mer au Jourdain. c'est le moins possible de Palestiniens sur un maximum de terres. Le grand projet, ça a toujours été un projet expansionniste.
Oui, mais est-ce que c'est quelque chose qui a été partagé par les Israéliens? Il y a des mouvements d'opposition, il y a des mouvements de gauche, des mouvements communistes, des Israéliens non-sionistes.
Il y a des sionistes de gauche.
Oui, il y a sionistes de gauche, non-sionistes, il y a toute une variété incroyable de pensées, de réflexions, de pressions, etc. Après tout, c'est un État en train de se construire, etc. Et on est un peu, évidemment, malheureux que ce soit la frange la plus stupidement radicale et la plus butée, la plus bornée, qui finalement se soit imposée.
Mais vous savez, c'est la gauche sioniste qui est responsable de la Nakba en 48, hein. C'est pas la droite sioniste. Le Palmach et la Haganah, les grandes institutions militaires de la guerre de 48, elles sont tenues par ce qui a été après le Mapai, le parti travailliste. Ben Gurion, c'est un travailliste, c'est pas un mec de droite, d'accord. C'est eux qui avaient gagné en 48. Donc, la première Nakba, c'est la responsabilité des travaillistes. Je vais faire un grand écart dans le temps. La construction du mur de séparation, c'est une idée de la gauche sioniste. Séparons, divorçons en paix. C'était les mots de Amos Oz, grand sioniste de gauche. Et c'est sur cette théorie-là que s'est mis en place tout le système d'apartheid. Pourquoi ? Parce que la gauche sioniste voulait garantir un État juif et démocratique. Pour qu'un État juif soit démocratique, il faut garantir une majorité juive dans cet État. Mmh. Donc la séparation des populations. D'où les routes de contournement, le mur, séparé. L'extrême droite n'a pas une logique de séparation. Elle a une logique d'expulsion, d'évacuation.
C'est ça.
Elle veut aller jusqu'au Jourdain. Elle considère que c'est le grand Israël qui l'intéresse. Donc l'apartheid, elle s'en fout. Ce qu'elle veut, c'est évacuer ou, si elle y est obligée, exterminer.
Est-ce que c'est possible en ce moment? C'est une chose qui est évoquée assez souvent. Voilà une partie de la population qui s'entasse à Rafah, hein, à la frontière égyptienne, avec des couloirs humanitaires problématiques. Moi, si je vivais là, dans ce dénuement complet, avec ma famille, je suis un bon Palestinien attaché à mon histoire, descendant de la Nakba de 48, etc.
Ouais. Comme les trois quarts de la population de Gaza.
Il y a un moment, je me dis, est-ce que je vais laisser crever ma famille là? S'il y a un corridor et qu'on peut sortir de là, et puis s'il y a un campement quelque part en Égypte, dans le Sinaï, etc., on va y aller. Je vais mettre la famille et puis je vais revenir. Enfin, ce genre de comportement.
Oui, bien sûr,
et puis, bien sûr qu'un jour on reviendra. On sait très bien qu'on reviendra jamais. Est-ce que c'est pas cette évacuation qui est en cours, qui risque d'arriver?
Je dirais que c'est le problème des Palestiniens de Gaza, c'est d'être pris en étau entre cette certitude qu'il faut garder la terre et que si on part, on reviendra pas, et cet instinct de vie qui fait qu'on a des enfants et qu'il faut les protéger.
Ouais.
Mettre une population dans un état aussi dramatique que ça, moi je pense que la responsabilité n'incombe pas uniquement, en tout cas comme on veut le faire croire, au Hamas. Je pense que la responsabilité est une responsabilité d'Israël et une responsabilité internationale, évidente. Pourquoi avoir accepté en silence ce siège de plus de 16 ans? Pourquoi accepter que des gens vivent dans ces conditions-là, avec tous les rapports qui ont été faits, et ne rien dire? Qu'est-ce que ça veut dire?
Et c'est vrai que tous les journalistes qui ont pu aller à Gaza, ce qui est notre cas à plusieurs reprises, au bout d'une demi-heure que tu es là, tu te dis comment font-ils pour ne pas devenir dingues, tous? Les conditions de vie sont-elles, les humiliations, les petites saloperies, les grosses saloperies? Tu te dis, comment ont-ils fait pour tenir jusque-là?
Mais il y a... maintenant, c'est pratique, il n'y a plus de presse internationale qui est autorisée à rentrer.
Non.
Alors après, on vous dit, les chiffres du Hamas sont sujets à caution.
Bien
et
sûr.
Ceux d'Israël, non. On est sur un territoire où il n'y a plus de presse internationale et où les journalistes palestiniens font le boulot et se font tuer. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Exiger une présence internationale, ce serait la moindre des choses.
Mais il y a une charnière dont je voudrais que tu nous parles. C'est ce moment où, dans la lutte des Palestiniens, il y a eu longtemps une lutte, disons, laïque, voire même de gauche, d'extrême-gauche, etc. Et puis, à un moment, il y a une bascule où l'islam s'est introduit là-dedans. Et depuis, il y a quelque chose qui circule, qui dit « Ah oui, mais ça, alors, l'islamisation de la cause palestinienne, c'est une stratégie
israélienne. »
Et Netanyahou a encouragé et a fait monter le Hamas.
Bien avant Netanyahou, c'est bien plus ancien.
Ouais.
C'est Charles Anderlin, dans une tribune du Monde de 2006, qui refaisait cet historique qui est très intéressant.
Voilà, et je l'ai sous les yeux, cette tribune de Charles Anderlin, du 3 février 2008. Alors, il parle du cher Yassine, de Hamid Yassine, et il dit « Le chef spirituel de ce mouvement lié aux frères musulmans était un cher infirme d'une quarantaine d'années. Il était le favori des gouvernements militaires qui régulièrement venaient lui rendre visite. Les généraux expliquaient, deux points, il est préférable que les Palestiniens prient et ne s'occupent pas de politique.
Ben voyons,
l'arrivée au pouvoir du Likoud ne changera pas cette attitude bienveillante d'Israël envers la confrérie. Et il se peut bien qu'il y ait eu une volonté de décaler le conflit pour le faire passer d'une lutte anticoloniale à une guerre de civilisation, eux et nous. Ce qui fait qu'une partie de l'opinion française nous, on est des Occidentaux, on est civilisés, on est contre ces barbares. Et c'est ça qui s'est peu à peu installé, et c'est ça qui, en ce moment, est en train de...
Que notre gouvernement est en train de rejouer ici.
Oui, hein, oui.
C'est la même idée. Mais effectivement, il s'agissait de, pour Israël, définir le meilleur ennemi, si j'ose dire. C'était sûrement pas l'OLP, ni les cadres laïcs résistants, qui attiraient les sympathies occidentales. Parce qu'ils fonctionnaient aussi sur les mêmes paramètres. Alors, il s'agissait de mettre en avant les musulmans, d'éradiquer, parce que ça, on l'oublie aussi, mais le début des années 2000, ça a été la campagne des assassinats ciblés par Israël, qui a littéralement décapité tous les cadres de l'OLP et du Fatah. Et finalement, le 11 septembre a été une occasion extraordinaire, parce que la première réaction de Sharon à l'époque, d'Ariel Sharon, a été de dire « Mais on vous l'avait toujours dit, nous ». Qu'on se bat contre le terrorisme islamiste. Et vous ne nous compreniez pas, mais maintenant nous nous retrouvons sur le même terrain, nous sommes dans le même camp, le camp occidental du bien contre l'axe du mal musulman. Et du coup, c'était une manière de faire d'internationaliser la protection d'Israël, finalement.
Et le 11 septembre a été évoqué dans les minutes qui ont suivi.
Immédiatement.
Le 7 octobre, ça a été évoqué, le Bataclan et tout ça ont été immédiatement...
Oui. Avec une double... un truc un peu vicieux français. D'un côté, Darmanin qui se retournait immédiatement sur la population musulmane de France en disant attention à ce que vous allez dire et si vous allez broncher, parce que c'est une guerre dans laquelle il ne s'agit pas d'importer le conflit, c'était les termes répétés. Et puis, 10 jours plus tard, une volonté de dire nous sommes Israël et comme nous, nous sommes l'Occident, nous nous battons contre des forces barbares, hein, qui sont les forces de l'islamiste, et nous sommes donc dans le même combat avec Macron, qui achève la mise en place du système international de protection d'Israël, qui est la coordination internationale contre Daesh, doit s'élargir au Hamas. Eh bien, la boucle est bouclée, quoi. On est tous dans le bain, donc l'importation du conflit, excusez-moi, mais il me semble que c'est pas le fait des Français qui soient musulmans ou pas, c'est le fait de ce gouvernement, qui importe d'abord et qui généralise ensuite, qui internationalise ensuite.
Bon, écoute, voilà quelques analyses qui devraient permettre peut-être de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Alors, on va se retrouver peut-être pour une deuxième partie, avec votre bouquin sur l'antisionisme, une histoire juive.
Là-bas, si j'y suis.